On s'en va dans Éphésiens 6. J'ai beaucoup d'autres versets que je vais vous lire. Je veux juste commencer avec ce verset-là pour amener un point. Mais j'ai beaucoup de versets que je vais vous lire à travers ça, des fois comme exemple. C'est une étude qui est riche. Je vais prendre mon temps. Il y a beaucoup de points très importants. Le combat de nos pensées. Qui pense ici? Et mon ami, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y en a deux. C'est deux filles.
Ça
fait que les gars, hein, c'est pas très flatteur.
Non, mais.
Ouais, c'est ça. Mais mon point, c'est que tout le monde pense. Puis, qu'est-ce qu'on admet dans nos pensées? Qu'est-ce qu'on admet dans nos cœurs? Parce qu'on pense dans notre cœur. On va considérer ça ensemble, puis avec évidemment la tactique de notre ennemi par rapport à ça. Vous allez voir, c'est riche en leçons pour chacun de nous. Éphésiens 6. On commence au verset 10. Au reste, frères, il n'y a pas de frère là, c'est moi qui ai inventé ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est de ça qu'on va parler. Notre ennemi. Parce qu'on sait qu'on a, on a vu, hein, on a à se battre contre notre propre chair, notre moi, là, on a vu ça dans le dernier message. On a aussi à se battre contre le monde, hein, le monde qui ont toutes sortes de façons de perspectives pour voir comment que les choses sont, s'expliquent, en quoi qu'on devrait se confier. Donc la chair, le monde, et là on est rendu à cet ennemi que Jésus décrit ainsi. Et là ici, quand il dit « vous avez pour part le diable », il parle aux pharisiens, mais c'est pour tous ceux qui sont sans Jésus-Christ. Donc le diable, si vous voulez accomplir les désirs de votre père, il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est notre ennemi, Satan, le père du mensonge, meurtrier dès le commencement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est vaincu. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est le grand vainqueur. Dans cette guerre millénaire entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, entre la lumière et les ténèbres, Jésus a conquéri. Il a vaincu, il est le grand vainqueur. Et si on n'est pas nécessairement toujours conscient de cette guerre, ni comment elle fonctionne, ben, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, puis surtout quand on n'en est pas conscient, puis qu'on ne sait pas comment ça marche, souvent on est sujet à en être des victimes. Donc c'est pour ça que c'est important de considérer ensemble les éléments fondamentaux de la guerre de nos pensées, ou le combat de nos pensées. D'abord, une première chose qu'il faut connaître, c'est la nature de notre ennemi. La nature de notre ennemi. Depuis la chute, Satan a usurpé le règne terrestre qui revenait de droit à l'homme. Dieu l'avait donné à l'homme. Mais Satan, le voleur, par la tromperie, a usurpé ce règne. C'est pour ça qu'il est appelé dans la Bible le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle. OK? C'est toutes des expressions pour dire c'est lui qui a le règne sur cette terre. Et la parole nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont sous la puissance du malin. Puis ça nous dit aussi dans Éphésiens 2:2 que l'esprit de Satan comme ça agit, littéralement énergise les fils de la rébellion. C'est le portrait en général de c'est quoi qui arrive avec ce prince, avec Satan, dans ce monde, en ce moment. Ceci dit, avec Satan, on peut faire deux erreurs. L'ignorer, puis dire qu'il n'existe pas, ou lui donner tellement d'importance comme s'il était plus grand que ce qui est pour de vrai. Donc là, on va clarifier une couple d'affaires en partant pour connaître la nature de notre ennemi. D'abord, Satan n'est pas comme Dieu. Il n'est pas le créateur. Il est absolument pas comparable à Dieu. Tu sais, des fois, les gens vont dire, Satan contre Dieu, c'est même pas un match. Je veux dire, non, c'est une créature, puis il fait juste que Dieu, il permet, c'est pas un match là, comme de boxe un face à l'autre. Il y en a un qui est vaincu, puis qui peut rien faire. Là. Fait que, tu sais, des fois, là, le monde souvent dit ça. Même en ce moment, des fois on entend ça, là, si on écoute des affaires des fois, là, ah, là, on est dans un temps, il y a une guerre entre Jésus et Satan, tu sais. Puis, c'est vrai qu'il y a une guerre, mais c'est la façon, des fois, que, c'est que le portrait est fait, c'est un peu c'est comme si c'était à force égale. C'est complètement pas à force égale. Il est une créature, Dieu est le créateur. Dieu peut faire ça, puis il n'y a plus de Satan nulle part, là. T'sais, c'est parce qu'il laisse, parce que ça fait partie de ce que Dieu fait. Mais OK, fait que c'est pas des forces égales, donc il n'est pas du tout comme Dieu. Satan non plus ne peut pas être à plus d'un endroit à la fois. Il n'est pas omniprésent. OK? Oui, OK, dans le verset qu'on a lu juste après, ça dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. OK, il y a une armée, ça fait que ça fait pas mal de monde qui peuvent travailler pour lui. Mais il n'est pas, lui, Satan, qui est le chef de cette armée-là, il n'est pas omniprésent. Aussi, une autre affaire, donc, il n'est pas comme Dieu, il peut chercher une place à la fois, et il n'y a pas de puissance ou d'autorité que Satan a, qui est même comparable à celle de Dieu. J'ai référé un peu, mais je vous amène deux versets par rapport à ça. D'abord, dans Colossiens 2,15, ça dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la foi. Comme je disais, ils sont complètement vaincus, humiliés. Aussi, on apprend dans Jude 6 qu'il a réservé le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, ils sont damnés, ils sont déjà vaincus. Satan ne peut pas faire autrement que ce que Dieu seulement lui permet de faire. Il n'agit pas comme un agent libre. Il est sous l'autorité de Dieu. Okay? Puis Satan non plus, évidemment, il ne connaît pas tout. Les sciences occultes, des fois, présentent comme une science là, cachée, mystérieuse. Puis ça donne un peu l'impression là, qu'ils ont le secret de tous les mystères. Ça vient de Satan, ces affaires-là, puis c'est du mensonge parce que non, Satan ne connaît pas tout. En fait, Satan ne peut connaître que ce que Dieu a révélé et ce que Dieu permet qu'il connaisse. Puis aussi, une affaire importante, bien, Satan peut, il ne peut pas lire dans les pensées. Rappelez-vous dans Daniel, quand le roi a eu un rêve, personne n'était capable, les sorciers, les magiciens, il n'était pas capable de dire c'était quoi le rêve. C'est Dieu. Puis même Daniel a dit, moi je ne suis pas capable, mais je vais prier le Dieu des cieux qui lui révèle ce qui est caché. OK? Donc, c'est important de connaître ça. Là. Tu sais, Satan, là, il est très limité là, quand on voit ça. Là. Mais ceci étant dit, il est plus fort que nous, par exemple, comme personne. Mais en Jésus-Christ, nous sommes sécurs parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Une autre affaire qui est importante à connaître aussi au niveau de Satan, c'est que ce qu'il connaît du futur, c'est ce que Dieu en a révélé. Des fois, les gens vont dire « Ah, Satan, c'est tout ce qui va arriver. » Non, OK, Satan, je pense qu'il connaît la Bible comme il faut. Puis, il a étudié la prophétie et tout ça. Mais, tu sais, là aussi, il est limité. Il n'y a pas d'avantage sur nous là-dessus, même s'il essaye de différer, de troubler notre espérance. Tu sais, il connaît le futur, puis il peut nous enlever cette espérance vivante qu'on a. Qu'on souffre comme ceux qui n'ont pas d'espérance ou pour qu'on passe à côté, justement, de cette consolation les uns les autres par l'espérance qu'on a dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la lumière de tout ça, on peut comprendre très clairement que Satan est une créature limitée qui ne se compare absolument pas au Dieu créateur et tout-puissant. Sauf pour qu'il en soit. S'il se compare, ben c'est humiliant pour lui. Il devrait pas. Satan, des fois, on entend ça, il veut se comparer à Dieu comme s'il était égal. Non, si Satan fait quoi que ce soit comme nous autres pour se comparer à Dieu, c'est humiliant. OK? Mais malgré cette limitation qu'il a, il est rusé et tenace. Pas parce qu'il est limité qu'il n'est pas décidé à vouloir faire du trouble. Et voici. Ça nous amène au deuxième élément. Voici les tactiques qu'il amène pour essayer de nuire. Donc, on connaît la nature de notre ennemi un peu mieux. Maintenant, on va se pencher sur ses tactiques, les tactiques de notre ennemi. D'abord, sachez que ça nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, Satan a quelque chose à enseigner. Satan a une doctrine. Satan a une théologie. C'est juste qu'elle n'est vraiment pas en ligne avec la théologie christologique qui est celle de la rédemption. Puis ok, mais il y en a une, là. Il connaît la Bible, là. Ok? Mais il a tort, puis tout ça, bon. Puis aussi, il faut comprendre que il est capable d'influencer les humains. Écoutez ce que ça dit. C'est assez spécial. Puis là, bon, il y a deux passages. Vous avez peut-être ceux qui connaissent bien votre Ancien Testament. Il y a deux passages qui diffèrent. Puis là, c'est assez demandé. Écoutez, y a-t-il une contradiction dans la Bible? Mais on apprend dans 1 Chronique 21:1, Satan se leva contre Israël et il, Satan, excita David à faire le dénombrement d'Israël. Puis on lit sur la même histoire, mais dans 2 Samuel 24:1, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il, l'Éternel, excita David contre eux en disant, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Comment on peut expliquer ça? Bon, d'abord, il faut comprendre que Satan est capable de mettre des pensées dans notre tête. Puis là, je vais vous expliquer comment. Comment Satan peut nous faire rentrer une idée dans la tête? Bien, d'abord, il faut reconnaître, ici, ça dit, il a excité, puis quand ça dit que c'est Dieu qui l'a fait, bien, dans le fond, c'est que Dieu a permis à Satan de le faire. Comme avec Job, tu sais. Dieu a dit, OK, vas-y, mais tu touches pas à sa vie. Mais c'est qui a donné la permission? C'est Dieu. Et c'est la même affaire ici avec le roi David. OK? Mais là, on peut se dire, c'était-tu l'idée de David ou l'idée de Satan? Ben David, probablement que son intérêt les voit, il a dit, c'est ma propre idée. Mais ça a été suggéré par Satan. Juste pour vous dire, des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé, une idée qui arrive de nulle part, puis qui est vraiment pas de Dieu. Là. Ça peut être une pensée, une image, une parole. Puis on sait, l'origine de tout ça, ça c'est un trait enflammé du malin. Ça, c'est Satan qui va implanter une idée dans notre tête. Ça peut être par le pouvoir de la suggestion avec ce qui nous arrive. Puis bon, il faut développer un peu plus ça. Mais Satan peut faire ça. Nous amener à penser certaines choses. Puis là, j'ai pris l'exemple de David. Mais qu'en est-il de Juda? Écoutez ce que ça dit dans Jean 13, 2. Pendant le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Juda, fils de Simon, le dessein de le livrer. Il y a eu une influence directe, là. OK? C'était-tu la pensée de Judas? Mais ici, ça nous dit que c'était l'idée du diable. C'est lui qui avait mis dans le cœur de Judas de faire ça. Est-ce que Judas était disposé à ça? Oui, OK, mais OK. Je vous continue avec un autre exemple. Ananias et Saphira. Acte 5, 3. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Voyez-vous l'implication de Satan dans toutes ces personnes-là par rapport à leur cœur, ce qu'ils pensaient même dans leur cœur? Ananias, probablement qu'aussi on serait allé le voir, il aurait dit que c'était son idée, puis qu'il a partagé ça avec sa femme. Mais le verset nous montre que l'origine était satanique. Et comme tous les autres, Ananias a été trompé et la conséquence a été désastreuse. Heureusement que Dieu, dans ce cas-là, puis dans les autres cas aussi, a donné ça comme un puissant avertissement face à l'orgueil, à l'incrédulité, puis au compromis. Dieu a laissé Satan faire ses choses pour donner des solides avertissements. Vous dire que David, il se tenait pas mal tranquille après là, le dénombrement. Même chose avec la compagnie apostolique avec Judas, puis aussi l'Église naissante dans le livre des Actes. Ça dit qu'une grande crainte les avait saisis. Elle dit à deux reprises. Donc, si Satan est capable par la puissance de la suggestion, d'implanter des pensées en nous, il peut aussi nous faire croire que c'est les nôtres. Là, je vous donne des exemples. Peut-être que certains ici, certaines disent, « Ah, je ne sers à rien. Je suis laid, je suis laide. Je ne suis pas capable de faire ça. » OK? Bref, Satan va prendre ce qu'il connaît de ce que nous, parce que c'est un fan observateur. Il prend ce qu'il connaît nous autres, puis il va suggérer au moment opportun, « Ah, toi, là, tu sers à... » Nous, on complète rien. « Toi, tu es... Ah, » lettre. OK? Puis... Mais pour ceux qui pensent ça, les autres ne trouvent pas ça drôle. Parce qu'il y en a que c'est vraiment, en tout cas, mais bon.
J'aime pas ça
quand tu parles. Ouais, c'est ça. Non, je vais essayer ta femme de le dire. Donc, voyez-vous, c'est la première tactique de Satan, influencer nos pensées, implanter dans notre pensée des choses qui ne sont pas de Dieu, des mensonges, des demi-vérités, toutes sortes de choses de même. Deuxième tactique, la tentation, l'accusation, la tromperie. OK, si on imagine la vie chrétienne comme une course, c'est pas quelque chose de farfelu, parce qu'il a dit dans Hébreu qu'on est comme dans une arène où il y a plein de monde autour, OK, devant une si grande nuée de témoins. Aussi, Paul dit qu'il compare sa vie à de la boxe puis à de la course. Donc, on peut s'imaginer la vie chrétienne dans un contexte de sport, de course. Ben, Satan ne peut pas nous bloquer dans notre course. Il ne peut pas empêcher qu'on devienne tout ce que Dieu veut qu'on devienne en nous sauvant. Mais sauf qu'il peut crier des gradins. Il peut crier « Hey! » Regarde par là! Viens prendre une petite pause ici, là. Si tu vas vraiment aller mieux avec ça, puis personne ne va se rendre compte de rien. Allez! Il va tenter vers le péché de même. Ou il va dire, t'as encore raté? Quel chrétien pathétique! Tu devrais juste t'arrêter et abandonner. Le genre d'affaire qu'il va dire. Ou carrément dire, désolé, c'est pas par là, le fil d'arrivée, c'est par là. Nous tromper carrément même. Voyez-vous? Tentation, accusation, tromperie. C'est comme ça que Satan nous invite à pécher, à tomber, veut nous faire tomber par la tentation, l'accusation, la tromperie. Puis, il peut aussi des affaires, nous dire des affaires dans le genre, puis là, c'est nous qui va t'en dire, ah, oh, je suis sans espoir. Je ne vais jamais être capable. Ou de l'autre côté, je suis capable. T'sais, les deux, c'est des. Je n'ai pas besoin d'aide pour ça. Okay? Mais savez-vous quoi? Les chrétiens vaincus, c'est ceux qui acquiescent, qui répondent à ça sans contrecarrer par la vérité. Qui vont pas s'accrocher par la foi à ce que Dieu dit. Donc, sont vaincus. Les chrétiens victorieux, c'est ceux qui ignorent ces tactiques, ses tentations, ses accusations, puis ses tromperies, puis qui vont amener leurs pensées captives à l'obéissance de Christ, qui vont oublier ce qui est en arrière lorsque Satan accuse, puis qui vont porter les regards vers ce qui est en avant. C'est là qu'est la victoire. Et savez-vous quoi? La tromperie. On a parlé d'accusation, tromperie, mais l'arme de prédilection de Satan, c'est la tromperie. C'est-à-dire nous faire des choses qu'on pense que c'est bon, qu'on pense que tout est beau, puis on ne se rend même pas compte qu'on est complètement dans le champ. Puis s'il y a des gens ici que le Seigneur a ouvert leurs yeux sur des choses dans leur vie, par rapport peut-être à la sanctification par les œuvres, peut-être la justice propre, qu'il y avait des choses où est-ce que, hey, on était vraiment confiant que c'était ça la meilleure façon, puis tout est beau. Puis là, le Seigneur nous ouvre les yeux, puis on dit, hey, comment j'ai été trompé pendant si longtemps? Ben, c'est pour ça que Satan il aime cette arme-là, parce que là, on s'en va, puis on est tout gelé, puis on pense que tout est beau, puis on continue, puis il n'y a pas besoin. Il nous laisse aller, parce que on est nous-mêmes en train de s'auto-détruire, puis de détruire les autres. Par définition, on ne s'en rend pas compte, donc ça nous rend esclaves. C'est pour ça que la vérité, c'est si important. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre, va vous affranchir, mais le mensonge, la tromperie, ça nous rend esclaves. OK? Une troisième tactique de Satan, il va obtenir un accès, ou littéralement du terrain, par le péché. Et à ce sujet-là, je vous lis Éphésiens, je l'ai lu la semaine passée, mais je vous le relis, Éphésiens 4, 26, 27. « Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès ou du terrain au diable. » Un autre passage sur un peu la même vérité ici. Or, si vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ces deux passages-là, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? C'est que deux grands accès, Tu sais, Paul parlait d'un grand accès, une porte ouverte efficace pour l'Évangile. Mais ça, c'est un accès grand et efficace pour Satan. La colère, le manque de pardon. C'est pas les seuls, mais ça en est des forces, sont spécifiquement données ici comme étant des façons par lesquelles Satan a accès. OK? Parce qu'il y a des desseins, puis OK? La colère, le manque de pardon. Et c'est pourquoi c'est en conformité avec son caractère. La colère, c'est quoi? L'aboutissement, c'est le meurtre. Il est meurtrier. Manque de pardon, c'est vivre un mensonge. Il est menteur. Manque de pardon, c'est dire... Cette personne-là a tellement fait du mal, je ne peux pas le pardonner, c'est trop grave ça. Non, si on vit à la lumière de la croix, il n'y a rien qui ne peut pas être pardonné parce que Christ nous a tout pardonné. Et comme on a été pardonné, ainsi on se pardonne nous-mêmes comme on a été pardonné par Jésus-Christ. Mais quand on est pris dans ce piège-là de laisser accès à Satan, par ces deux éléments-là ou d'autres choses, on est directement en contradiction avec la vérité puis l'amour. On marche, au lieu de marcher dans l'humilité et la foi, on vit dans l'orgueil et l'incrédulité. Voilà pourquoi on chante « La foi est la victoire et l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Donc c'est ça la façon de ne pas laisser du terrain à Satan, de s'humilier et de prendre la provision de Dieu. On va revenir là-dessus dans un instant, mais j'aimerais juste regarder un troisième élément. Là, on a vu les tactiques de Satan. Un troisième élément pour notre message après-midi. Là, on a vu la nature de notre ennemi, ses tactiques, mais maintenant, c'est quoi la relation entre les chrétiens et le monde spirituel? Comme je disais tantôt, on peut donner trop d'importance ou on peut en donner pas assez. C'est quoi le bon ratio? C'est quoi l'approche biblique qu'on doit avoir face au monde spirituel hostile auquel on a à faire face? Le monde des esprits malins dans les lieux célestes. Ben, si vous êtes un enfant de Dieu, au plus profond de votre être, vous êtes connecté à Dieu par le Saint-Esprit. OK? L'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Le lien qui vous attachait au péché a été brisé. C'est plus le péché qui est votre maître maintenant, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui est votre maître, c'est lui qui vous dirige. OK? Et donc, Satan ne peut plus vous contrôler. C'est pour ça que je suis convaincu, et c'est clair, un chrétien ne peut pas être possédé d'un démon, d'un esprit malin. Parce que l'Esprit de Dieu, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit ne peut pas être vaincu. Si on est à Christ, on lui appartient, puis Satan ne peut pas nous toucher. Okay? C'est toutes des références que je vous dis de la parole de Dieu. Okay? Mais s'il ne peut pas rentrer en nous puis nous contrôler, il peut nous influencer puis il peut nous opprimer. Okay? Autrement dit, okay, Satan a perdu toute possession. Il ne nous possède plus. Là. Okay? C'est quoi tu as dit comme mot? C'est que Satan, on y appartient plus, OK, en tant que chrétien. Mais si on cède, par exemple, à ses tactiques, si on cède à sa tromperie, si on lui donne du terrain, il va influencer nos pensées. Il va influencer notre conduite. Mais le plus important, c'est nos pensées. Voyez-vous, le temps que je disais tantôt, t'es comme ci, t'es pas comme ça, c'est des façons qu'on pense qui sont pas à la lumière de la parole. C'est pas vrai que je suis un raté. Je suis quelqu'un qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ. J'ai peut-être fait bien des affaires qui sont ratées, mais ce n'est pas mon identité. Satan va m'accuser de raté. Mais si je crois ce que Dieu a fait de moi, je ne suis pas un raté. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu, sa grâce est avec moi. Et même si j'ai fait bien des affaires de raté dans ma vie, ce n'est pas ça mon identité. C'est important parce que souvent les gens sont détruits par ça. Ils perdent l'espérance. Ben, qu'est-ce que tu veux faire avec un raté comme moi? Ben, Dieu est capable de faire de quoi? C'est ça notre identité en Jésus-Christ. Mais le but de Satan, c'est de nous neutraliser. Et même de nous utiliser pour l'avancement de ses plans. Tu sais, avec Judas, Judas, c'est pas un enfant de Dieu, mais même Ananias et Saphira, qui je crois étaient des enfants de Dieu, ça donnait pas honneur au nom de Dieu, mais voyez-vous comment Dieu est capable de changer le mal en bien? Judas, je veux dire, C'est le fils de perdition, peut-être ça, mais Jésus est allé à la croix. Dans Acte 5, il pensait amener la confusion. En fait, ça allait amener la crainte du Seigneur pour montrer que l'œuvre de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Là, parce qu'il faut comprendre, à l'époque, c'était un peu... C'était la nouveauté qui faisait froncer les sourcils à tout le monde. Hein? Une église, des gentils, des païens ensemble. Même que là, bon, dans Acte 5, c'était même pas encore, il n'y avait pas encore des païens parmi eux, mais ça allait venir très bientôt. Mais c'est quoi cette nouvelle doctrine, ce Jésus et tout ça? Dieu a vraiment s'est servi de ça pour l'avancement de son œuvre. Satan pensait, voyez-vous comment il est limité, puis comment, je veux dire, c'est ça. Dieu est au-dessus de lui. Mais là, je vais amener une chose importante par rapport à ça, par rapport à notre relation avec ce monde spirituel-là, satanique. La Bible nous dit que sur les non-sauvés, ils exercent une œuvre d'aveuglement. OK? Là, je vous lis ça. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, c'est clair, Satan veut aveugler ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour pas qu'ils voient justement le glorieux évangile afin d'être sauvés. Donc ça, c'est chez les non-croyants, mais cette capacité, ce désir à aveugler ceux qui sont des enfants de Dieu est encore là chez notre ennemi. Il veut nous empêcher de voir toute la splendeur. Si on a vu l'évangile qui sauve, il veut nous empêcher à voir cet évangile de la vie chrétienne, de la victoire en Christ, de la plénitude de la vie en Christ, il veut nous voiler à ça. Qu'on pense que la vie chrétienne, ben, tu fais ci, tu fais ça, puis là, c'est beau, c'est bien correct. C'est ça, la vie chrétienne. Il voudrait tout nous cacher le pan de vie chrétienne de ce qui est Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il veut nous aveugler à ça. OK? Avec notre justice propre, avec un évangile défaillant, puis tout ça, puis bon. Donc, ça nous amène à ce point tellement crucial. Si je ne vois pas les choses telles qu'elles sont selon la parole de Dieu, si je suis aveuglé, ça va rendre ma connexion à la vérité, à Jésus la vérité, d'autant plus difficile. C'est pour ça que, même si vous avez tous des bons enseignements, mettons là, vous dites, hey, c'est le fun, on va à l'église, on est enseigné dans la parole de Dieu, hey, ces vérités-là, la victoire en Jésus-Christ, c'est beau, mais c'est pas assez pour grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que on peut avoir toutes ces choses-là sans connecter avec Jésus qui est notre vie et notre victoire. C'est pas juste une connaissance intellectuelle et des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on doit voir avec les yeux de la foi. C'est pour ça que Paul, quand il entend parler de l'Église qui va bien à Éphèse, il prie pour eux que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils voient tout l'héritage, toute la puissance, tout ce qu'ils ont en Jésus-Christ. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas sauvés, puis c'est pas qu'ils n'allaient pas bien non plus. Il dit, hey, je vois la fermeté de votre, comment ça dit, votre amour, votre foi, votre espérance, là, je me rappelle plus, en tout cas, ils allaient tout bien, là. Mais qui, tu sais, c'est pas parce qu'il était charnel ou que ça allait pas bien, c'est que c'est des choses qui, vraiment, c'est le Seigneur qu'il faut qu'il nous ouvre les yeux là-dessus, puis c'est ça qui fait qu'on marche dans ces victoires, OK? Mais si on laisse du terrain à l'ennemi en croyant, en cédant à ses tactiques, ben, on a beau avoir toutes ces vérités-là devant les yeux, on va y être aveuglé. On ne va pas se rendre compte que quelqu'un va nous en parler. C'est comme si ça nous rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Puis pour vous montrer de quoi je parle, si vous avez des choses qui essaient des déclics là-dessus, tu sais, un peu comme des fois on parle à quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis on lui parle, hey, Jésus, là, c'est le seul sauveur, là. Puis tu n'as rien à faire. Là. Le salut, tout est accompli. Tu as juste à y croire. Puis la personne, pas de service au numéro que vous avez composé. Mais c'est pareil, pour un chrétien peut être aveuglé comme ça par rapport à la vie qui est en Jésus-Christ. Il peut être une pilote automatique, faire toute sa bonne petite vie chrétienne, mais il est amer, il n'est pas content, puis il est pris par la peur, ou peu importe, parce qu'il manque l'essentiel de la vie chrétienne qui est Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est pas des choses à faire, c'est une personne à découvrir qui vit en nous. C'est une personne. duquel sont beaucoup de bonnes choses. OK? Je veux dire, s'il y en a qui ont peur là, que si avoir Jésus, là, ça produit rien, puis tout ça, non, c'est bien mieux. Là. C'est pas des œuvres mortes, c'est du fruit vivant. Le fruit de l'esprit. OK. Je veux terminer en amenant des points pour comprendre comment briser ces forteresses-là qu'on pourrait avoir avec les tactiques de l'ennemi, comment il veut nous faire tomber, puis tout ça, l'aveuglement, puis tout ça. On va vouer plus de temps plus tard, parce que là, dans le fond, on va toucher un peu comment renverser des forteresses, OK? À la fin de la série, plus loin, on va vraiment regarder en détail plus comment la parole de Dieu nous enseigne pour renverser les forteresses, mais juste quelques points terminants pour vous amener des éléments de base. D'abord, si on veut... Là, vous allez voir, c'est ça. Les armes avec lesquelles on lutte ne sont pas charnelles. Voyez-vous comment je peux avoir la victoire dans ma vie sur des choses aussi fortes que des forteresses? Des choses que je veux arrêter, mais que je ne suis pas capable? Y a-t-il quelqu'un qui a ça dans sa vie? En fait, si vous êtes honnête, on en a toutes. C'est juste qu'on n'a pas toutes les mêmes. La première chose, c'est comprendre notre position en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en Jésus-Christ? Écoutez, je vais vous donner... Je parlais tantôt d'Éphésiens 1. On va vous lire à ce sujet-là quelques versets. Voyons, ils sont où? Elles ne sont pas écrites où, mes versets. Je me cherche un peu. OK, ici. Donc, ce que je vous disais, que j'avais appris les bonnes nouvelles de l'Église d'Éphèse, puis là, il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, ceux qui disent, ouais, mais ça, c'est Jésus, il est au-dessus de tout, c'est bien beau. Savez-vous quoi? Ça nous dit dans Éphésiens 2, 6, ça dit... Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, tout ce que je viens d'écrire sur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes ses autorités, ses dominations, nous sommes là en lui. C'est notre position. Donc, c'est pas se prendre un autre, « Hey, je suis au-dessus de tout ça, je suis au-dessus de mes affaires. » En Jésus-Christ, on est au-dessus de toutes ces dominations, ce monde spirituel qui voudrait nous assaillir, nous décourager. On est au-dessus de Satan de son armée, on est en position d'autorité dessus, en Jésus-Christ. Pas que nous, on n'a aucune autorité, mais on n'a rien à craindre parce que nous sommes dans le bien-aimé. Et ça doit alimenter notre foi. Jésus a dit dans Jean 15, quel beau passage dans Jean 15, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Seigneur, je comprends pas tout, c'est quoi ces affaires-là de ma position. Demandez, Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Je vous dis, si vous demandez ça sincèrement à Dieu, simplement, il va vous ouvrir les yeux. C'est tellement grand, il y a du grand ouvrage à faire, ouvrage de yeux. OK? Donc, ça, c'est la première chose, comprendre notre position en Jésus-Christ. Deuxième, utiliser les ressources qui sont en Jésus-Christ. Non seulement comprendre ce qu'on a, mais utiliser ce qu'on a. On a tout pleinement en lui, OK, mais je vais vous donner une couple de versets à ce sujet-là. Parce qu'on parle du diable, donc pour rester dans ce sujet-là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est quoi ici ma ressource? C'est seulement de me soumettre à Dieu, c'est d'aller m'abriter sous son aile. Parce que je l'ai dit, là, Satan est plus fort que moi. Mais si je me réfugie en lui, si je me soumets à lui... Je vais être capable de résister au diable, puis lui, il va fuir loin de moi. Un autre verset, ça nous dit que le diable est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais aussi, ça nous dit qu'il est vaincu. Oui, il veut faire du bruit, puis on va en parler dans un instant, mais dans Colossiens, je l'avais lu tantôt, mais je veux relire Je vais commencer au verset 14 cette fois-ci. Jésus ici, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en les clouant sur la croix. Donc la loi qui nous demandait la perfection, Jésus s'en est chargé. Puis ensuite, il nous dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, même si Satan est vaincu, il rugit, il menace, mais tant et aussi longtemps qu'on se soumet à Dieu, qu'on résiste au diable, il doit fuir loin de nous. Et il ne peut pas rien faire tant que Dieu n'a pas la permission. Même quand c'était à l'apogée du récit de la passion de Christ, Satan avait réclamé de cribler les disciples comme le froment. Il ne pouvait pas le faire lui-même. Il a fallu qu'il demande à Dieu la permission. Puis Dieu l'a permis. Parce que ça dit, il a réclamé, il a permis, mais Dieu a dit, j'ai prié pour pas que votre foi défaille. Ben, voyez-vous comment Dieu est au contrôle d'absolument tout. Dieu avait des desseins avec ça. Ah, puis j'aime tellement ce verset-là. Il faut se le rappeler quand on pense à notre ennemi. Là. Vous dites, il ne faut pas le faire plus gros qu'il est. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Notre foi. Donc, ça, c'est à se rappeler, OK? Les ressources qui sont en Christ et on a accès à ces ressources par notre foi. Le juste vivra par la foi. Et surtout avec Satan, là, on n'a pas besoin d'avoir peur. C'est quelque chose de gros qui utilise Satan dans nos vies, la peur. Pas nécessairement la peur de lui, là, la peur de l'inconnu, la peur des circonstances, la peur de tout ce qui nous fait peur. Parce que la seule chose qui est grande avec Satan puis ses acolytes, c'est leur bouche. Comme un chien qui jappe fort mais qui ne mord pas puis qui n'a pas de dents, ben c'est ça. Puis la Bible nous dit que les démons sont très conscients de l'existence de Dieu. Ça dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça finit mal leur histoire. Ils tremblent face à Dieu et à ceux qui se confient en Dieu. Savez-vous que le plus petit des saints qui lutte à genoux dans la foi dans son Seigneur Jésus-Christ fait trembler les démons de l'enfer? Pas parce qu'il est quelqu'un lui-même, mais parce qu'il se confie dans le Dieu Tout-Puissant. Puis ça, les démons tremblent face à ce Dieu. On n'a pas à avoir peur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis toutes les affaires qui pourraient nous séparer, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Connaissez-vous 1 Jean 5:18? 1 Jean 5:18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On n'a pas à avoir peur. Il va juste faire ce que Dieu permet qu'il fasse, comme avec Job. Puis vous avez vu avec Job comment Dieu a fait une belle œuvre de grâce dans sa vie. Oui, il a souffert, mais Dieu a été plus que vainqueur. On ne doit jamais oublier ça. Jamais oublier ça. On doit aussi garder nos pensées. OK, donc, juste pour ici, là, avoir la victoire, là, OK? Je veux juste rappeler, là, savoir notre position en Jésus-Christ, les ressources qui sont en lui, on n'a pas à avoir peur, et on doit garder nos pensées. Garder nos pensées. Il faut faire attention à ce qu'on permet à rentrer dans nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puis David dit, « Sonde-moi, ô Dieu! » Des fois, on ne sait même pas ce qu'on a pu laisser d'entrer dans notre cœur, on est tout mêlé, mais Dieu peut tout démêler ça. Puis la parole de Dieu est vivante et efficace, puis elle juge des sentiments puis des pensées du cœur. Puis Dieu est capable de faire une marche là-dedans, de dire « ça vient pas de moi, c'est du mensonge, ça vient de moi. » Ça ajoute 10 fois, ça ajoute 10 pas fois. Dieu va s'occuper de ça. Puis remarquez, la Bible ne dit pas de faire de l'introspection, mais de demander que lui sonde nos cœurs. Parce que notre cœur est tortueux au-dessus de toute chose. Si on veut se sonder nous-mêmes, on risque pas mal de se tromper. Mais comme Daniel a dit, il y a un Dieu qui révèle ce qui est caché. Connaissez-vous Daniel 2:22? Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure auprès de lui. Donc, avec tout ça après-midi, c'est quoi qu'on doit retenir de tout ça? La question importante avec laquelle je veux terminer après-midi. Des fois, on peut se demander, OK, mais là, le pasteur a prêché là, sur les tactiques de Satan, puis
Là, il y a ci, puis là, trois, puis j'ai pas tout pris les bonnes notes. Oh, man, là, je vais
tout être mêlé. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Cassez-vous pas la tête. OK? Gardons ça simple. Simplement à se demander, tu sais, ces pensées-là, ah, oh, ça vient-tu de Satan, cette pensée-là, ou ça venait de moi? Ou... Peut-être que ça vient de moi, mais c'est Satan qui a suggéré. Comprenez-vous comment on peut devenir un peu parano avec ça? Ben, pour garder ça simple, là, la question importante, c'est l'origine. C'est-tu moi-même? C'est-tu ma chair? C'est-tu le monde? C'est-tu Satan? Ou c'est-tu Dieu? OK? La question, c'est pas ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la vérité, la parole de Dieu. C'est ça le barème. Si c'est vrai, on y croit. Si c'est proche d'être vrai, mais pas tout à fait, on n'y croit pas. Si c'est complètement faux non plus, mais croyez-vous? Des fois, le pire ennemi de vrai, c'est pas complètement faux. C'est ce qui est tellement proche d'être vrai, mais qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a une coche un peu à côté. Vous dites, hein, c'est quoi? Satan aime ça la tromperie, aime ça aussi la contrefaçon. Ça a l'air, mais c'est pas tout à fait. C'est pour ça que c'est vital que la parole de Christ demeure dans nos cœurs, dans toute sa richesse, puis qu'on s'entretienne par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout notre cœur, parce que c'est la parole dans nos cœurs qui est la vérité, c'est ça qui va nous libérer. Si ça, ça occupe nos pensées, nos cœurs, quand le mensonge va se pointer, la fausse note va être détectée rapidement, puis on va s'en rendre compte. À ce sujet-là, un bon verset. Mais dites-moi, comment je fais pour savoir? Nourris-toi des paroles de vie. Nourris-toi de la vérité. Ou pour le dire dans les mots de Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, la guerre de nos pensées, le combat de nos pensées, ça se vainque simplement en les alimentant par la vérité. Vous rappelez-vous du café que j'avais parlé? Si j'ai fait un café, puis là, mon café, il est caféiné, il a passé par le fil, puis tout. Comment je fais pour décaféiner mon café? Hey, c'est dur, hein? C'est quoi? C'est la solution? On rajoute de l'eau, on rajoute de l'eau, on rajoute. À force de rajouter de l'eau, à un moment donné, ça ne sera plus du café, ça va devenir de l'eau. Là, vous dites, ah, mais dans la tête, je suis tellement mêlé, je suis comme un café, je ne peux plus me décaféiner. Faites-en pas. Mets de l'eau de la parole, l'eau de la parole, l'eau de la parole. Puis à un moment donné, les pensées de confusion, puis ce qui n'est pas trop, ce qui est un peu trop brun comme du café, que tu ne sais plus trop voir au travers. Tu vas tellement avoir nourri avec la vérité de la parole, l'eau pure de la parole, tu vas voir clair. Donc, c'est pas compliqué. Il faut pas qu'on essaie d'enlever le café du café. Il faut juste qu'on se nourrisse de la parole. Puis, Dieu va s'occuper vraiment de mettre la clarté là-dedans. Ou pour le dire en un dernier mot, faites-en pas attendre vous focusser sur votre ennemi, ses tactiques, puis comment il peut vous tromper, mais focussez sur la vérité. Avec un grand V. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est une personne, la vérité, une personne à découvrir. C'est la parole incarnée. Donc, on découvre, tu sais, que Satan, c'est une personne aussi qui incarne tout ce qui est mensonge et meurtre. Mais Jésus, c'est l'inverse. Se nourrir de lui et s'abreuver de sa parole, c'est ça la solution. Amen. Merci Seigneur que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Glorifie Seigneur ton nom au milieu de nous par l'œuvre que juste toi es capable de faire Seigneur. On a parlé de notre ennemi, mais on te remercie qu'on n'a pas à tout mettre notre attention, se demander comment il marche, puis quelle menterie il peut nous dire. Mais Seigneur, on a juste à garder les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Oui, on ne veut pas ignorer Satan. On a lu tantôt, on ne veut pas ignorer ses desseins. Mais on ne veut pas non plus lui donner plus d'importance que ce qu'il aurait. Seigneur, c'est toi le plus important. C'est toi qui es digne de toute louange, de toute adoration, de toute notre attention. Et Seigneur, c'est vers toi qu'on porte les regards en terminant. Et on te remercie que tu as vaincu cet ennemi, que tu l'as exposé. Il a été démasqué. Et Seigneur, nous avons aussi ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous avons en nous cette foi vivante qui a vaincu le monde et le malin. Merci Seigneur pour ta victoire, que tu es notre victoire. On te remercie, on te loue. Au nom de Jésus. Amen.